C'est la journée des femmes aujourd'hui, peut-être. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler une histoire. Je dis, on va aller raconter une belle histoire aujourd'hui. L'histoire d'une femme dont on entend très rarement parler. C'est de Rahab la prostituée. Mais oui, la Bible parle de toutes les situations de notre humanité. Qui est Rahab ? Alors, pour là aussi replacer dans le contexte, le peuple d'Israël vient de passer 40 ans dans le désert à cause de sa désobéissance, de son manque de foi. Moïse est mort, et voilà que Josué, son successeur, reprend le flambeau pour faire passer le peuple d'Israël au-delà du Jourdain et conquérir cette terre d'Israël. Le Seigneur donne des consignes à Moïse. Pendant 3 jours, vous allez vous mettre à part pour vous purifier. Et après, je vous donnerai la victoire sur la ville qui est en face, c'est-à-dire Jéricho. Mais Josué avait vécu quelque chose 40 ans auparavant avec Moïse. Moïse avait envoyé 12 espions dans le pays. Ça avait quand même posé des problèmes au retour. Donc là, il s'est dit, je ne vais pas en envoyer 12, je vais en envoyer que 2, ce sera déjà pas mal. Et donc, ces espions passent le Jourdain discrètement, vont dans cette ville de Jéricho. C'est pas très bien ce qu'ils y ont fait, mais j'imagine qu'ils ont noté des choses dans leur mémoire. Le soir arrive et ils vont loger chez une femme qui s'appelle Rahab et dont la maison était dans les murailles. Qui est Rahab, cette prostituée, ou dite prostituée ? Son nom, Rahab, peut dire devenir large, spacieuse, généreuse. C'est joli comme identité. Une femme qui va devenir large, spacieuse et généreuse. Et à côté de son nom, il y a son métier. Alors, le mot hébreu pour ce qui a été traduit par prostituée pourrait avoir 2 consonances, 2 orientations différentes. L'idée de nourriture ou d'hospitalité. Ou alors, l'idée d'adultère et de séduction. Alors, Rahab était-elle aubergiste, puisqu'elle accueille ces 2 hommes pour les faire coucher ? Était-elle prostituée ? Était-elle les 2 ? On ne sait pas. En tout cas, on peut savoir qu'au fil des siècles, Flavius Joseph, qui est un historien célèbre du temps des Romains, penchait pour la notion d'aubergiste, ainsi que Rashi, un rabbin exégète très connu au Xe siècle, qui penchait aussi pour cette notion d'aubergiste. Donc, je trouvais intéressant d'avoir toutes ces couleurs, ce panel d'informations sur cette femme, parce que ça nous la dessine un peu. Une chose est sûre, c'est que cette femme a accueilli ces 2 hommes pour y passer la nuit. On va prendre Josué 2, versets 2 et 3. c'est génial d'avoir ça en face maintenant. Alors, voilà, 2, verset 2, Josué 2, 2. Hein? Ah, c'était pas marqué, ça fait rien. Je vais vous les lire parce que je les ai sous les yeux. Donc, les espions arrivèrent chez Rab, mais on dit au roi de Jéricho, « Voici que les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors, le roi de Jéricho envoya dire à Rab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Sous-entendu, c'est pas seulement pour faire un audit du pays, hein. À l'époque, on ne s'arrêtait pas à l'audit. On allait beaucoup plus loin, puisque en règle générale, quand des gens arrivaient comme ça, c'était pour détruire la population. Visiblement, Rahab savait beaucoup de choses, puisque des espions savaient, enfin des gens de la ville savaient qu'elle avait hébergé des gens. Enfin, la ville devait quand même être importante, mais voilà, en étant aubergiste, elle était à l'écoute et elle connaissait certainement beaucoup de bruit. C'était peut-être un peu la télévision de l'époque ou France Info, de le service des informations de l'époque. Au verset 4 et 5, « Mais la femme emmena les deux hommes, les cacha et dit, « Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Au moment où l'on allait fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » En fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés dans les tiges de lin arrangées pour elle sur le toit. Elle savait très bien qui étaient ces hommes, comme elle savait très bien qui étaient les envoyés du roi de Jéricho. Et là, elle a fait un choix dans sa vie qui a été celui de sauver ces deux hommes et d'aller les cacher sur son toit-terrasse, son coin de refuge à elle, visiblement où personne n'allait, puisque les hommes du roi n'y sont pas montés, donc on ne sait pas si c'était un lieu secret. C'était donc une femme qui avait du courage pour faire ce qu'elle a fait, parce qu'elle risquait quand même certainement sa vie s'ils avaient appris qu'elle avait trahi son propre peuple. Et c'est avant le coucher des espions qu'elle monta auprès d'eux sur le toit. Et là, on comprend mieux ce qui s'est passé et pourquoi Rahab a fait de tels choix. Elle dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, et que vous avez voué à l'interdit. » Cette femme, elle devait pas avoir 40 ans, mais elle était au fait de tout ce qui se racontait à l'époque de la transmission orale. Et voilà que Jéricho, en face du Jourdain, voit arriver un énorme peuple juste en face. Et là, ils savent que c'est le peuple qui, il y a 40 ans, a traversé les eaux de l'Égypte jusqu'au désert, et que Dieu a ouvert l'eau. ça s'était répandu et ça s'était raconté. Et elle, elle avait entendu tout ça. Bien sûr, 40 ans étaient passés, mais voilà qu'Israël, ce peuple, arrive. Et comme le roi Dog et Sion ont refusé de les laisser passer, ils ont été combattus et Israël a gagné. Donc, une fois de plus, la terreur s'est emparée des populations alentour, parce qu'ils se sont dit, mais comment on va combattre cette nation? Mais elle, elle dit, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. Cette femme, malgré toute sa vie sociale, c'était visiblement une femme célibataire, sans enfant, aubergiste, voire prostituée, avait eu la conviction que l'Éternel allait donner ce pays à Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. En tout cas, j'ai lu récemment un livre qui parlait de ce que Dieu fait dans les pays du Moyen-Orient aujourd'hui. Et toutes les fois où Jésus a visité des gens la nuit. On peut arrêter beaucoup de choses par des forces humaines, mais on n'interdit jamais à Jésus de traverser des murs, de passer au travers des portes et d'aller rencontrer les gens dans leur chambre, dans leur intimité. Et ce livre témoigne de dizaines de personnes qui ont la visitation de Jésus comme ça. Une révélation, une rencontre. C'est extraordinaire. Et je pense qu'à cette époque-là, cette femme a dû vivre la même chose. Ça n'est pas écrit, ça c'est moi qui interprète. Mais je me dis, comment a-t-elle eu cette conviction? Elle continue au verset 11. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, et Dieu dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas. Quelle extraordinaire confession pour cette femme qui vit sans aucune protection autour d'elle et qui a dans son cœur cette profonde conviction que le Dieu d'Israël est l'Éternel qui est Dieu dans les cieux et sur la terre. C'est une femme qui a vraiment dû faire une vraie rencontre avec ce Dieu-là, notre Dieu. Il y avait beaucoup d'idolâtrie à l'époque, beaucoup de cultes. À Jéricho, c'était principalement le culte à la lune, culte qui est encore pratiqué aujourd'hui. Et je crois qu'elle a eu un courage fou. En avait-elle parlé auparavant? Jamais. Je pense que cette femme devait le garder pour elle, dans son cœur. Mais voilà, je crois que dans sa chambre haute, sur son toit terrasse, comme par la fenêtre de sa maison qui donnait sur la muraille, elle a pu regarder longtemps au loin et rêver à ce qui pourrait se passer dans sa vie. Avec tout ce qu'elle avait entendu, les témoignages qu'on lui avait racontés, les événements qu'elle voyait devant elle, ont marqué cette femme profondément et l'ont convaincue de qui était Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. Cette femme habitait dans les murs de Jéricho. Sa maison, il est dit, était dans les murs et il y avait une ouverture dans le mur. Des murs hauts et protecteurs qui auraient dû la protéger, elle, protéger son peuple, cette ville. Les murs de sa maison qui lui assuraient une sécurité toute humaine. Et je me dis, bien souvent, nous aussi, on a des murs autour de nous. Oh, des murs qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous garder, nous mettre en sécurité. Des murs qu'on s'est créés soi-même au travers des circonstances de nos vies, qu'on est riche et qui nous font croire qu'on est bien protégé. Mais ces murs, c'est de la pierre, ou en tout cas du matériau dur, qui peuvent avec le temps devenir soit enfermement, soit sclérose, ou qui peuvent nous endurcir. Mais Christ est notre rocher, notre forteresse, notre refuge. Là, ils mettent notre haute retraite. Moi, je vais mettre notre toit-terrasse. Hein? J'avais reçu une fois une image de quelqu'un qui avait dû grandir sans amour de ses parents et sans la sécurité nécessaire à une croissance normale d'un enfant. Et il y avait plein de pierres qui étaient là, et ces pierres dans lesquelles on se heurte tout le temps et qui empêchent une vraie relation. Et je voyais Jésus qui prenait toutes ces pierres dans ses bras d'amour, et les pierres étaient transformées. Jésus transformait les pierres que la personne avait érigées tout autour d'elle pour devenir des pierres vivantes, des pierres de vie, des pierres de réconfort, d'amour, des pierres de sécurité. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies, avec tous nos murs. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que j'en ai encore. Et il faut que j'accepte que ces murs soient transformés et aussi rendus à la vie pour que la vraie sécurité, ma vraie sécurité, soit en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lorsque cette femme a rencontré ces deux hommes, elle qui devait attendre depuis longtemps un événement X ou Y qui allait changer sa vie, elle a compris que ces deux hommes représentaient ce moment-là, un moment crucial. Et c'est là qu'elle passe un contrat avec eux. Elle leur dit: « Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est avec eux, et vous nous ferez échapper à la mort. » Elle savait que ce qui allait arriver, si elle restait dans cette ville, c'était la mort pour elle et toute sa famille. Donc là, avec ces hommes, elle passe un contrat. Voilà, moi je vous ai gardé, protégé, caché. Donc, est-ce que vous acceptez de sauver ma vie, mais pas seulement la mienne, mais celle de ma famille? C'est là qu'on se rend compte qu'elle ne dit ni mari ni enfant. Voilà, c'est une femme qui devait être jeune, pas mariée, pas d'enfant, mais qui avait des frères, des sœurs, un père, une mère, et qui souhaitait les faire échapper à la mort. Et ça me rappelle un verset d'Actes 16, 31 qui dit: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Hein, c'est les geôliers de Paul et Silas dont les murailles s'écroulent. Ils sortent de prison et le geôlier est tellement terrorisé que Paul lui dit: « Mais non, toi et ta famille, vous serez sauvés et vous allez échapper à la mort. » Et dans un contrat, il faut être deux. Et donc, les hommes lui dirent: « Nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Elle avait été loyale à la fois envers ce Dieu dont elle avait eu la conviction qu'il était le Dieu, et aussi loyale envers le peuple d'Israël. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'était dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit : allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous poursuivrez votre chemin. 3 jours. 3 jours sans personne. Est-ce que ça ne vous rappelle pas aussi la crucifixion de Jésus ? 3 jours dans la mort, dans le tombeau, avant la résurrection. Ces hommes aussi sont restés 3 jours loin. Ces hommes lui dirent : voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et groupe auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Mets un signe à ta fenêtre. Mets un cordon. Et le mot hébreu pour cordon peut avoir 2 sens, le sens cordon, mais le sens espérance. Un cordon écarlate qui nous parle du sang de Jésus, qui est un lien qui nous relie, ce qu'on peut presque parler de cordon ombilical, de vie, hein, qui nous rattache à Jésus et qui devient notre espérance. Donc, ce contrat qu'elle a fait, qu'ils ont fait, hein, Jésus le fait avec nous. Je t'offre le salut gratuitement en Christ si tu crois que je suis celui qui peut te sauver. Je suis toujours complètement ébahie de voir dans l'Écriture, du début de la Genèse à la fin, ce fil conducteur du salut par la grâce en Jésus-Christ et par la foi. Tout nous ramène à Christ. Et là, on se rend compte, on étudie maintenant Christ dans la Genèse. Alors on dit, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas question de Christ dans la Genèse. Mais si, il y a plein d'endroits qui parlent de Christ dans la Genèse. Et là, au travers de ce cordon écarlate, c'est aussi un témoignage de ce qu'est Christ pour nous. Et puis, elle les a laissés partir en mettant une corde à sa fenêtre. Ils ont pu s'enfuir pour partir 3 jours. Alors, elle a dû se dire, mais qu'est-ce que je dois vivre pendant ce temps-là ? Il n'y avait pas de contrat signé et même des signatures. On sait bien qu'aujourd'hui, la parole peut être donnée sans être concrètement engagée. En fait, dans Josué 6, 22 à 25, on fait le calcul du nombre de jours. Donc, il y a eu 3 jours pendant lesquels les espions étaient cachés, sont retournés à Josué, qui a entendu le rapport et qui a dit « Oui, on sauvera la vie de cette femme et de toute sa famille et de ses biens. » Donc, il a demandé au peuple pendant 3 jours de se préparer et de se sanctifier. Et après, ils ont vécu encore 14 jours de préparation. Et il y a eu encore les 7 jours de trompette autour de Jéricho. on arrive en tout à 24 jours d'attente à se dire qu'est-ce qui va m'arriver. La foi. Ça a été 24 jours pour elle. Moi, ça fait 50 ans. Il faut garder la foi. Hein? Mais je crois que l'engagement loyal et fidèle de Christ envers nous, si moi je continue à être loyal et fidèle, eh bien le contrat sera tenu. Colossiens 1:27 nous dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire, le cordon de la gloire. » Nous avons le cordon du sang de Jésus qui nous rend garants de sa promesse qu'au jour où nous mourrons, nous irons dans le pays promis. Jean 6:47 « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ce n'est pas l'aura, peut-être un jour. Là, c'est du présent. En anglais, il y a du présent continu. J'aime bien cette grammaire-là. Du présent continu. C'est aujourd'hui. Si je crois en Christ, j'ai la vie éternelle. Je peux vivre avec cette assurance. Et c'est le seul qui propose cette assurance-là. Il n'y en a pas d'autre. Si vous entendez tout le monde autour, les gens n'ont jamais cette assurance de la vie éternelle, de où ils iront après leur mort. Est-ce que j'en ai assez fait? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai fait mal? Est-ce qu'on va faire des comptes? Seul Christ, ce cordon d'espérance écarlate, nous assure de cette certitude. Alors, est-ce que l'histoire se termine là? Eh bien, non. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on continue l'histoire de cette femme extraordinaire. On n'a pas le temps de trop s'arrêter sur qui elle était dans sa personnalité, mais j'imagine qu'avec tout ce qui a été décrit, Christine pourrait nous en faire un beau tableau avec plein de couleurs et de qualités. Voilà, je crois que c'est une femme qui avait des qualités remarquables au-delà du péché qui était dans sa vie. Mais il en va de même pour nous. Nous sommes tous pécheurs. Alors, cette histoire, ce serait presque dommage si ça s'arrêtait là. Mais on la retrouve, notre Rahab, dans Matthieu 1, dans la généalogie de Jésus. Au verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Ah, on retrouve notre Rahab, notre spacieuse, notre généreuse, qui devient large. Oui, elle s'est élargie. Notre Rahab, elle s'est mariée avec un homme qui s'appelle Salma. Elle a eu un fils. Et ce fils s'appelle Boaz, qui deviendra le mari de Ruth. Si vous connaissez l'histoire de Ruth, cette extraordinaire histoire. Et je pense qu'on découvre qui est devenu Rahab en découvrant la personnalité de Boaz. Cet homme, on le découvre dans le livre de Ruth, était respectueux de ses serviteurs, de son personnel. Il a été respectueux de Ruth. Il aurait pu en abuser. Il a été respectueux de la loi sociale de sa ville, de Bethléem. Cet homme était un homme infiniment droit, intègre et respectueux. Et je me dis, ça, c'est le fruit d'une femme qui a fait une véritable rencontre avec Christ. Quand on sait de où elle vient et le fruit qu'elle a porté, en se souvenant que Boaz a été l'arrière-grand-père de David et est dans la généalogie de Jésus. Comme quoi, en partant d'une femme dans une ville de Jéricho qui a reçu la conviction toute seule, semblerait-il, alors peut-être qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas, elle a gardé ça secret pour elle, cette conviction de qui était l'Éternel et qu'il était le Dieu en haut dans les cieux et sur la terre, ce que ça peut amener comme élargissement. Elle est devenue large puisque nous sommes le fruit de sa foi. L'effet papillon, vous connaissez, hein? C'est pour ça que je crois que nos choix, nous, sont aussi précieux que cette femme-là. On retrouve dans Hébreux 11, dans la liste de tous les grands personnages qui ont eu la foi, on la retrouve. Elle est associée à la chute des murailles de Jéricho. Elle, alors Matthieu 11, est-ce qu'on l'a là? Oui, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Et c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et dans Jacques 2, 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Rahab a témoigné concrètement de sa foi en s'engageant au risque de sa vie. Il y avait 2 risques. Dans les 2 cas, elle pouvait perdre la vie. Donc, elle a choisi celui que son cœur lui avait dit de suivre comme chemin. Et je voudrais lire Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, c'est-à-dire l'Église, s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et je trouve que c'est un clin d'œil au toit-terrasse de Rahab qui a caché les espions sous du lin, sous une œuvre juste. Comme quoi, des petits détails. Moi, quand j'ai préparé, j'étais... ça nous met aux anges quand on découvre des choses comme ça dans la parole de Dieu, des détails. Alors, je voudrais terminer par Éphésiens 1, 10. Je ne l'ai pas mis sur la liste, mais je trouve important à l'heure actuelle. Parce que, voilà, on est... L'histoire de Rahab se situe en 1451 avant Jésus-Christ, il y a 3600 ans. Et on a le sentiment que notre actualité aujourd'hui, elle est la même. Je crois que tout le monde est au courant de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Notre actualité est dramatique, mais on sait que Dieu tient tout dans sa main et conduit. On a entendu ce matin qu'il avait vraiment besoin de nos prières. Et moi, je voudrais terminer dans Éphésiens 1, versets 10, 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et je crois que la pensée de Christ, je pense qu'on peut à la fois lire l'histoire de Rahab il y a 3649 ans, comme on peut lire notre actualité aussi aujourd'hui, en sachant que l'objectif de Dieu est de tout réunir un jour au temps voulu en Jésus-Christ. Et c'est là que la paix pourra vraiment régner. C'était ce que je voulais vous laisser, que vous puissiez découvrir, relire cette histoire de Rahab qui, je trouve, voilà, en tout cas moi, m'a grandement élargie dans l'écriture. Et voilà, devenir large, spacieuse et généreuse, et c'est ce qu'elle a été en tout cas pour moi, et elle m'a apporté de l'espérance. Amen.